Bonjour Monseigneur Brouvet.
Bonjour Anne-Rose.
Ben voilà, nous y sommes. C'est reparti pour une seconde période de confinement, même si celle-ci ne ressemble pas tout à fait à la première. Il n'empêche qu'il y a quand même des règles à respecter, que cette situation est difficile à vivre et à accepter pour certains, pour beaucoup de personnes même. Voilà pourquoi il est important d'être encouragé, d'être aidé, d'avoir les mots de notre pasteur. Et c'est ce que nous allons faire tout au long du confinement. On va proposer ce rendez-vous hebdomadaire pour avoir votre éclairage sur l'actualité du monde, du pays, et puis sur l'actualité de l'Église, avec vous, Monseigneur Brouvet. Et on va commencer dès ce matin par l'actualité. Alors, entre la crise du Covid, la crise économique, les attentats, le confinement, toutes ces choses-là qui nous arrivent, on est un peu submergé. Qu'arrive-t-il à notre monde, Monseigneur Brouvet ?
Écoutez, je crois qu'il nous arrive qu'on n'a pas le monde dont on avait rêvé. C'est ça qui nous arrive depuis quelques mois. Et on rêvait d'un monde débarrassé des religions et on se retrouve avec l'islamisme qui sème la terreur. Et on rêvait d'un monde sauvé par la raison scientifique et technique à travers tous les progrès. Et on se retrouve avec une pandémie qu'on ne parvient pas à juguler. Et on rêvait d'une sorte de mondialisation heureuse. Et puis, ce n'est pas ce qui arrive. L'islamisme répand une sorte de haine contre le monde occidental et puis les droits humains. Et la mondialisation par les échanges, par les transports, par les déplacements a propagé la pandémie à une vitesse record. Et donc, on pensait que la démocratie nous préservait du fanatisme. On pensait que la science nous préserverait des pandémies. Or, ils sont là, frappant à notre porte. Voilà ce qui arrive.
Notre humanité nous déçoit, c'est ça ?
Je crois qu'on est remis dans l'humilité face à notre fragilité, à notre vulnérabilité. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre maintenant, auquel il faut consentir, c'est que nous sommes fragiles. C'est que nous sommes finis, c'est que nous avons cette sorte de ce qu'on appelle la finitude. Hein, c'est qu'au fond, on n'est pas tout puissant et on n'est pas Dieu. Et donc, rappelez-vous, il y a un an encore, on parlait de logme augmenté, de transhumanisme. Et aujourd'hui, on est confiné chez nous avec interdiction de sortir à plus d'un kilomètre. Qui l'aurait prédit il y a un an ? Je crois que personne ne l'aurait dit. Et tout le monde, si on avait dit ça, tout le monde se serait dit « mais ils sont fous de dire ça à la radio ». Et je crois que là, c'est comme une immense remise en cause de nos modes de vie. On l'a vu cet été, hein, on prend les vacances autrement, on s'interroge sur nos moyens de transport, sur notre manière de consommer, sur notre manière de manger, de nous nourrir. C'est sur la façon de vivre la solidarité, la fraternité. On s'est rendu compte combien on pouvait être proche de gens qui sont loin par le téléphone et ne pas connaître les gens qui sont tout proches. Et pendant le premier confinement, il y a vraiment des gens qui m'ont dit « mais moi, j'ai découvert ma vieille voisine qui était seule. J'ai découvert cette famille qui habitait dans la rue et à laquelle je ne parlais jamais parce qu'on n'avait pas de point de rencontre. » Puis tout d'un coup, confiné, on s'est rendu compte qu'on avait des voisins. En fait, on avait des prochains, des prochains qui étaient proches. Et c'est ça auquel, vous voyez, on est confronté et puis alors qui interpelle notre manière de faire. Par exemple, notre manière de travailler en ce moment avec le télétravail, tout ça est bouleversé, tout ça est remis en cause. Et je crois qu'il faut prendre ce réel à bras-le-corps et nous demander ce qui nous suggère, ce qui nous enseigne.
Il y a des belles choses qu'on peut tirer de ces situations, mais pourtant quand même, on entend la peur qui monte, la colère qui monte. Et cette colère, elle est légitime aussi. Il faut l'écouter, y répondre. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ?
Oui, l'anxiété, elle est due au fait que personne n'a les réponses, justement. Et donc, quand personne n'a de réponse, c'est anxiogène. Je ne sais pas combien de spécialistes on a vu à la télévision, des pandémies, des maladies, des hôpitaux, tout ce que vous voulez. Tout le monde est venu porter l'antienne sur les plateaux ou bien dans les studios. Et en fait, personne ne sait exactement, même le gouvernement navigue à vue.
Bon, et en fait, c'est ça qu'on ne supporte pas, de ne pas savoir, de ne pas gérer, de ne pas pouvoir maîtriser.
Mais parce qu'on n'est plus dans le contrôle. Ouais. Et c'est ça qui nous a été retiré depuis quelques mois, c'est le contrôle et puis cette espèce de sécurité que nous avions. On est tout petit. Et donc, on est remis face à notre pauvreté, à notre fragilité, à notre précarité, même quand on a de l'argent sur notre compte en banque. Même quand on a des assurances, même quand on pense être à l'abri, en fait, personne n'est à l'abri. Et donc, je crois qu'il faudra tirer les leçons de cela. Je crois que quand on est chrétien, pas seulement, mais quand on est chrétien, je crois qu'on a de quoi puiser dans sa vie intérieure et puis dans l'Évangile pour comprendre qu'au fond, ça ne sera jamais la technique qui va nous sauver, ça ne seront jamais les progrès scientifiques. Ça sera jamais non plus le politique, parce que le politique, on le voit bien, il est impuissant en ce moment. Mais ça sera d'abord les ressources de notre vie intérieure. Et puis, ce que nous allons faire de ce réel, justement.
Alors, pour les chrétiens aussi, hein, le contexte est particulièrement douloureux, avec les attentats de Nice qui ont meurtri, évidemment, toute la société. Mais les chrétiens, dans leur vie communautaire, dans leur foi, quel est votre regard là-dessus ?
Alors, l'ambiguïté, c'est que le terrorisme islamique croit s'attaquer aux chrétiens lorsque... alors qu'en fait, ce à quoi ils veulent s'attaquer, c'est à la société occidentale, ses valeurs. Il y a une sorte de confusion hein, entre la foi chrétienne, la démocratie occidentale, et puis cette espèce d'arrogance à laquelle on assiste à cause de ces caricatures. Je crois que le mot n'est pas trop fort. Et donc, il y a une sorte de confusion. Donc, le christianisme ou les chrétiens sont pris pour cible, alors que la vraie cible, elle ne semble pas être là. Je crois qu'il y a une sorte de grande colère de la part de ces gens-là contre, au fond, un Occident qui vit... qui a beaucoup de richesses, qui vit avec beaucoup de moyens, alors que les sociétés du Sud sont plutôt pauvres.
Pour éviter ce genre de drame, comme à Nice, une personne qui rentre dans une église alors que des personnes sont en train de prier et qui tue, selon vous, est-ce qu'une des solutions serait de mieux surveiller nos lieux de culte, nos cimetières ? Est-ce qu'il faudrait mettre des caméras partout ? Quel serait un des éléments pour éviter ce genre de drame ?
Je crois pas que en mettant des caméras partout, on va éviter ces drames. On peut aussi porter des armures, quoi. On peut aussi s'armer, hein, comme aux États-Unis. C'est-à-dire,
C'est ce que certains prêtres demandent.
Le problème, c'est qu'à chaque fois, on cherche des réponses techniques à des questions qui sont pas du tout des questions techniques. Donc, on va essayer de répondre en nous enfermant. Avec des digicodes, des caméras et tout ce que vous voulez, des grillages, des mesures anti-camion bélier, tout ce qu'on a mis d'ailleurs au sanctuaire de Lourdes, alors que la question, elle est beaucoup plus profonde. D'ailleurs, un terroriste qui veut se faufiler quelque part, il trouvera toujours un moyen de le faire. Mmh. Et donc, il contournera tous ces obstacles. Je crois que la question, la réponse, elle n'est pas du tout dans justement une sorte de débauche de technologie, avec reconnaissance faciale, mais même si parfois il faut aussi prendre ces moyens-là parce qu'ils existent, mais on ne va pas en mettre dans toutes les églises. Je crois que la question, elle est beaucoup plus profonde. C'est une question de malaise social, de mal-être social, de mal-être de civilisation.
C'est une question aussi de culture ?
Non, je crois que c'est la question, elle est pas tellement là. La question, elle est de savoir comment nous parlons à l'islam, quelle est notre attitude vis-à-vis de l'islam. Moi, j'ai remarqué une chose qui est assez intéressante, c'est que entre le Covid et l'islam, enfin et l'islamisme, l'attitude du gouvernement est assez symptomatique parce que au fond, on a des gouvernants qui n'ont plus tellement l'idée dans leur esprit, dans leur culture propre, de ce que c'est que la transcendance. C'est-à-dire que la transcendance est quelque chose qui nous dépasse et qui nous atteint dans au plus profond de nous-mêmes, dans notre conscience personnelle. Quand on a la foi, cette foi, elle dépasse tout ce qu'on peut... si vous voulez, toutes les convictions politiques qu'on peut avoir, elle est au-dessus de tout, ou bien disons qu'elle est au fondement de tout. Je crois que nos gouvernants En permettant les caricatures, si vous voulez, de Mahomet, comme ils l'ont fait, ne se rendent pas compte combien ça peut être blessant pour des musulmans. Ils ne se rendent pas compte combien ça peut atteindre l'âme d'un musulman au plus profond de lui-même.
Bon. C'est là toute la question entre la liberté d'expression et le droit au blasphème.
Je crois que ça se pose pas tellement en question de droit au blasphème. C'est tout simplement... Je crois qu'on n'est pas dans la question du droit, là. On est simplement dans la question de... Quand on est ensemble dans une société, est-ce qu'on respecte ce qui, pour l'autre, est transcendant, c'est-à-dire dépasse aussi notre droit civil, dépasse l'autorité qui est confiée au pouvoir politique. On l'a lu il n'y a pas très longtemps, « Rendons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Eh bien, à Dieu est dû le seul culte, à Dieu est dû, disons, la foi et la révérence suprême. Et donc ça, il faut pouvoir l'accepter, il faut pouvoir accepter qu'il y a des hommes et des femmes qui ont une foi qui parle ce langage-là. Mmh. Et donc, alors on l'a vu aussi pour la question du confinement, c'est-à-dire en supprimant le culte, nos gouvernants ne comprennent pas qu'assister à la messe, ça n'est pas juste comme assister à un concert ou bien un ballet d'opéra, c'est-à-dire un petit moment sympathique et détendant pour nous changer les idées, mais c'est quelque chose qui est profondément enraciné en nous, dans notre foi chrétienne. Alors on voit qu'on a un droit qui est protecteur de la transcendance, un droit qui est protecteur de la liberté de conscience et en particulier de la liberté religieuse, la liberté de culte. Mais si ça c'est présent dans notre droit, qu'on fait par exemple l'arrêt du Conseil d'État en mai ou en juin dernier sur la possibilité qu'ont les chrétiens de célébrer leur culte, eh bien on a l'impression que ça n'est plus du tout dans l'esprit de nos gouvernants, de notre gouvernement.
C'est pour ça que cette fois-ci, le président de la CEF, de la Conférence des évêques de France, en concertation avec tous les évêques de France, a déposé un recours au Conseil d'État.
Oui, simplement parce que, autant la première fois, on ne savait pas très bien ce que c'était que cette pandémie, on ne savait pas très bien comment y répondre, on voyait que ça allait se finir à la Pentecôte. Bon, donc il y avait une sorte d'hésitation. Autant là maintenant, on se rend compte que... on ne peut pas simplement laisser faire, on ne peut pas laisser au pouvoir politique le droit de décider si nous allons pratiquer notre culte ou pas. C'est-à-dire que ça n'est pas dans ses prérogatives. Nous pensons que notre droit protège cela précisément. Mmh.
Et c'est une atteinte à notre liberté fondamentale de nous empêcher de nous rassembler pour vivre les célébrations en communauté paroissiale. Quelle va être la suite de ce recours ? Dans combien de temps on aura la réponse ? Quelles sont les suites de cette procédure ?
Bah ça, il faut attendre que le Conseil d'État donne son avis.
Donc ça peut être long, on ne sait pas ?
Non, en général, c'est pas très long. La dernière fois, ça n'a pas été très long. Hein. Donc, parce que si ça dure 2 mois, c'est pas la peine, vu que le confinement est censé s'arrêter au début décembre. Non, en général, la réponse est assez rapide. Ce qu'on a depuis la dernière fois, ce qui a beaucoup changé, c'est qu'on sait garder des mesures barrières. Et on sait très bien qu'il faut porter le masque, on sait très bien qu'il faut être à distance, on sait très bien qu'il faut mettre du gel. On sait
les communautés paroissiales l'ont très bien fait, l'ont très bien respecté.
Elles l'ont intégré. Et donc là, on ne voit pas très bien pourquoi aller faire ses courses, c'est permis, aller en classe, c'est permis. Et par contre, les cultes, on reste chez soi. Donc là, il y a quelque chose qui n'est pas logique. Et donc, qui a profondément changé depuis le premier confinement, c'est que, on sait un peu où on en est, et puis on sait faire, c'est-à-dire que l'argument sanitaire ne vaut pas.
Passons maintenant à la vie de l'Église, de notre Église diocésaine. Alors, vous l'avez dit, la vie du pays et de l'Église ne s'arrête pas. Alors, même si, évidemment, il y a des choses qui sont annulées ou reportées, il y a un rythme différent dans notre vie diocésaine, mais néanmoins, on a un besoin de vivre notre foi, de l'exprimer. Et pour cela, il y a pas mal de petites choses ou de grandes choses qu'on peut mettre en œuvre, qui sont encore possibles. Et vous lancez aujourd'hui une initiative qui va consister à demander aux chrétiens et aux curés d'ouvrir les portes de toutes les églises, dans tous les villages, partout dans le diocèse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le sens de cette initiative ? Comment ça va se passer ?
Les églises peuvent rester ouvertes, les gens peuvent partir se promener à un kilomètre de chez eux, et souvent à un kilomètre de chez eux, il y a une église. Bon. Et donc on voit bien comment là aussi, lorsque les gens sont confinés au village, eh bien, il me semble normal que l'église soit ouverte. Alors ensuite, le problème, c'est qu'il y a dans des villages des églises qui sont ouvertes parce qu'il y a quelqu'un pour le faire. Et puis dans les villages, il n'y a plus personne pour le faire ou on ne s'est pas organisé. Et donc, j'aimerais bien que toutes les églises soient ouvertes pour que chacun puisse aller se recueillir, mettre un cierge, simplement prier. C'est quelque chose que je dis depuis assez longtemps, hein, que je souhaite que les églises soient ouvertes le plus possible. Pour les gens du village et puis pour ceux qui sont de passage, on est un département où il y a beaucoup de tourisme. Et lorsqu'on est en vacances, c'est aussi des moments favorables, hein, pour prendre le temps du temps pour Dieu. Là, je crois que le confinement nous offre une possibilité, surtout que des habitants de village nous ont dit « Mais nous, on aurait bien aimé que notre église soit ouverte, on aurait bien aimé y aller. »
Vous avez eu des retours sur ça.
On a eu quelques retours. Et donc... bon, si on peut pas, on peut pas. Mais moi, j'ai envie de pousser. Ça fait partie des petites initiatives que l'on peut prendre pour que la vie de l'Église continue pendant ce confinement.
Donc, dans tous les villages, il y a une ou deux personnes qui possèdent la clé de l'Église. Et c'est un peu un appel que vous leur lancez de s'organiser, de se mobiliser pour que le matin, la porte soit ouverte et le soir, la porte soit fermée. C'est ça, aujourd'hui, que vous nous dites.
Oui, alors, c'est-à-dire on ne peut faire qu'appel aux bénévolats. Hein. Moi, je ne peux pas aller ouvrir toutes les églises tous les matins. Donc, on en a à peu près 450 dans notre département. Donc, ça veut dire, vous voyez, 450 personnes qui vont ouvrir l'église. Alors, est-ce que c'est réaliste ? En tout cas, on peut encourager, on peut favoriser, on peut dire oui, c'est ce que nous aimerions faire.
La porte d'une église ouverte, ça, c'est un signe missionnaire aussi.
Oui, c'est un beau signe. Oui.
À défaut de pouvoir lancer nos missions paroissiales, on peut déjà ouvrir les portes de nos églises.
Bah, les missions paroissiales, elles sont en gestation, donc elles ne sont pas à l'arrêt. Lorsqu'on veut lancer des missions, il faut s'y préparer, il faut se motiver intérieurement, il faut prier l'Esprit Saint. Je crois que les choses avancent dans le cœur des prêtres et puis des fidèles. Il faut donner du temps et je crois que le temps de confinement, ça peut être aussi un moment pour se dire, tiens, comment on va faire ? Quelles peuvent être les idées ? Comment on peut rejoindre des personnes qui ne viennent jamais dans nos communautés ? Ces missions paroissiales, c'est un projet à long terme.
Comment les prêtres vont-ils vivre leur ministère pendant ce confinement ? Vous leur avez demandé d'être présents dans les églises pour rencontrer les fidèles qui peuvent passer. Comment ça va se passer ? Comment un prêtre peut vivre son ministère pendant le confinement ?
Alors, d'abord, à la fin du premier confinement, j'ai rencontré tous les prêtres par doyenné. On a fait des rencontres. Je me suis rendu compte que tous les prêtres avaient bien vécu ce premier confinement. Ça a été... un moment important pour eux, pour leur vie de prière, pour ouvrir des livres, pour célébrer la messe pour leur peuple, même si jamais le peuple n'était pas là, présent physiquement. Je crois que beaucoup de prêtres, après un moment un peu de sidération, parce qu'évidemment on n'a jamais eu l'expérience de cela, eh bien, ont plutôt bien vécu. Ensuite, moi je leur demande de continuer à être pasteurs. Être pasteur, ça veut dire prendre des nouvelles des personnes, voir s'il y a des gens fragilisés, des gens abandonnés, des gens isolés. Et aussi, continuer à donner les sacrements, même si... parce que ça avait beaucoup manqué, évidemment, pendant le premier confinement. Là,
oui,
encore,
la communion.
On était très... On ne savait pas très bien comment faire. Bon, là, maintenant, on se rend compte qu'en respectant les mesures barrières, on peut très bien donner la communion sans assister à la messe. Moi, j'ai donné cette possibilité aux prêtres de pouvoir donner la communion alors que les personnes n'avaient pas assisté physiquement à la messe. Donc, on découple, si vous voulez, la célébration de la messe qui se fait seule pour les prêtres, donc sans assemblée. Et puis, des personnes qui peuvent venir à un moment de permanence en disant « j'aimerais communier » et recevoir la communion eucharistique. Et éventuellement se confesser, et éventuellement aussi parler, parce qu'il y a un ministère de la parole. Là encore, on peut très bien, en respectant les mesures barrières, eh bien, écouter, converser avec les personnes qui en ont besoin. Et puis, il y a la visite, hein, Voilà, la visite des malades dans les EHPAD, dans les hôpitaux.
Ça continue, ça peut continuer.
Le problème, c'est que oui, ça peut continuer, mais pendant le premier confinement, tout cela avait été pratiquement arrêté. Alors, ça dépendait beaucoup des responsables d'EHPAD ou d'hôpitaux ou de cliniques. Bon, mais là, maintenant, le gouvernement a vraiment insister sur le fait que les bénévoles pouvaient entrer pour les familles, les bénévoles pouvaient entrer, les services d'aumônerie, pour rendre visite. Alors on s'est rendu compte, je crois, là aussi, que le gouvernement a beaucoup évolué aussi dans sa doctrine, puisqu'on parle beaucoup de doctrine, en disant il n'y a pas que la préservation du risque sanitaire. On a besoin d'être en relation, on a besoin de sentir l'amour de nos familles, on a besoin de sentir que les autres sont près de nous. Et ça, c'est très important pour la santé mentale, pour le moral, quoi. Simplement pour continuer à vivre.
Monseigneur Brouvet, cette semaine, c'est une semaine bien chargée pour vous, parce qu'alors il y a des choses à mettre en place pour faire vivre le diocèse, la vie diocésaine pendant ce confinement, mais vous êtes aussi très occupé par la CEF, tous les évêques de France qui devaient se rassembler ici à Lourdes. Alors évidemment, ils ne sont pas présents à Lourdes, mais néanmoins, vous travaillez, vous avez des réunions de travail tous les jours avec les évêques de France. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur les sujets que vous allez aborder avec vos confrères évêques, quelles sont les priorités de cette rencontre virtuelle entre les évêques de France ?
On pourra peut-être en reparler la semaine prochaine, une fois que les discussions auront lieu. Pour l'instant, on est dans ces deux premiers jours, puisque ça a commencé lundi après-midi, on est mercredi. Ça a commencé par la poursuite d'un travail que nous faisons sur plusieurs années sur la question de l'écologie. Et la particularité, c'est qu'il n'y a pas que les évêques, mais il y a un ou deux délégués par diocèse concernés par ces questions.
Déjà l'an passé, c'était ainsi.
Oui, alors c'est ça. Ça avait commencé l'an dernier, en novembre dernier. Et puis là, il était prévu que ces représentants viennent nous rejoindre à Lourdes. Donc on est, je ne sais plus combien, 300. Alors il y a 110 évêques, en gros. Et puis on est à peu près 320, 330 en visioconférence, qui est un exploit technique aussi. Bon, merci à la technique quand même, il faut savoir le dire. C'est à la fois des petites conférences qui sont données, puis à la fois des petits travaux en groupe. Là aussi, la technique permet cela, de se retrouver à 5 ou 6, et puis de pouvoir aller un petit peu plus loin, par atelier, disons, sur les questions. Et là, c'est le thème de cette année, puisque l'écologie, c'est extrêmement vaste. Là, c'est la question de l'alimentation. Voilà. C'est-à-dire, évidemment, ça nous concerne beaucoup. Alors, en particulier les départements ruraux, comme le nôtre, mais aussi les villes, parce que si les villes peuvent se nourrir, c'est parce qu'il y a des campagnes, si je puis dire, qui les nourrissent.
Quels sont les autres sujets importants que vous aborderez cette semaine avec les évêques ?
Y a encore la question des territoires ruraux. C'est une vraie question, nous, pour notre Église. Bon, qui est une question très débattue en ce moment, évidemment, parce que c'est une question d'actualité, avec ce sentiment de déclassement du rural, de ces espaces ruraux. Il y a peu de densité humaine. C'est une question qui se pose pour l'État. C'est une question qui se pose pour les collectivités. Et c'est une question qui se pose aussi dans l'Église. C'est-à-dire qu'au fond, on a de vastes espaces ruraux qui sont plutôt en vieillissement, la population vieillit, et comment est-ce que nous rejoignons les personnes dans les communautés. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait 450 églises, ce qui est énorme dans notre département. Il y a assez peu d'églises où on a la messe tous les dimanches, évidemment. Voilà. Et donc, les chrétiens qui sont là, qui sont parfois très dispersés, qui sont parfois deux, trois, Peut-être que dans certains villages, il n'y a même plus personne qui va à la messe.
Et pour autant, cette église, elle a un sens, elle est importante, elle dit quelque chose dans notre histoire.
Oui, l'église bâtiment, vous voulez dire.
Oui.
Oui, bien sûr. Mais nous, la question, c'est comment on fait vivre les communautés aussi, et puis comment on les rejoint. C'est la question entre le centre et la périphérie. Mmh. C'est-à-dire comment est-ce qu'au centre, il y a tous les services, si je puis dire, les services d'une paroisse. C'est là qu'on fait le catéchisme, c'est là qu'on prépare au sacrement, qu'on reçoit les fiancés, qu'on reçoit les parents qui veulent faire baptiser un enfant. Donc, c'est là qu'il y a la messe tous les jours.
Cette question des territoires a une influence directe avec l'organisation de l'Église, en fait.
Mais oui, c'est ça. C'est-à-dire ensuite, comment est-ce qu'on n'est pas seulement présent au centre, mais qu'on est présent aussi à la périphérie, et pas seulement pour les prêtres, par exemple, pour y célébrer des obsèques. Mmh. Parce que si on voit le prêtre qui arrive 10 minutes avant les obsèques, qui repart 10 minutes après, ça n'est pas vraiment une présence du prêtre. Et ensuite, la question, c'est l'Église, elle ne vit pas que parce que le prêtre est présent là, physiquement. Il peut se passer des choses, il peut y avoir du catéchisme dans ce village, il peut y avoir le chapelet, il peut y avoir des temps justement où on ouvre l'église. Donc l'église peut vivre là. Comment est-ce qu'elle vit et comment est-ce que le prêtre est présent à la fois au centre et puis justement dans cette périphérie. Et donc ça ne suffit pas simplement de deux, trois idées pour résoudre la question, parce que pour les prêtres...
Oui, c'est une réorganisation sur le long terme, vraiment. C'est une vision sur 10 ans, peut-être.
Oui, la question, ce n'est pas tellement de l'organisation, c'est une présence, quoi. C'est-à-dire que quand les prêtres étaient seuls dans un village, pour tout le village, ils vivaient au milieu des gens, et là, il y avait quelque chose qui se passait. Maintenant, quand un prêtre n'habite plus au village... Comment on a encore le lien au pasteur, au bon pasteur? Comment le prêtre peut connaître aussi ses fidèles et comment il peut partager des choses, pas seulement une liturgie, hein, parce que si le prêtre n'est là que pour la liturgie et qu'il s'en va, il manque quelque chose dans sa vie de pasteur.
Merci beaucoup, Mgr Beauvais. Vous retrouverons la semaine prochaine pour un nouvel entretien. Chaque mercredi, pendant le confinement, un entretien avec vous pour avoir votre regard, votre éclairage sur la vie de l'Église, la vie du pays, et pour avoir vos mots d'encouragement dans cette période un petit peu difficile.
Voilà, merci Anne-Rose. Et moi, j'aimerais justement dire aux gens de ne pas baisser les bras. Hein, d'abord, on est unis dans la prière. Et puis, on se porte les uns les autres. Et je crois que face à cette période... Il faut vraiment que dans la joie, dans la paix, dans l'espérance, nous continuions le chemin. Voilà. Bon courage à tous.